Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
Bonjour à tous. J'accueille avec joie Christelle Bastard, qui est la directrice responsable des études transverses et de la prospective de CBRE. On va essayer de... On avait, dans la préparation de cette émission, évoqué l'idée, on va faire 3-4 questions, comme j'ai l'habitude de faire, et puis on a tellement spontanément échangé d'idées qu'on s'est dit non, on va le faire sous forme d'une conversation. Alors, elle n'est pas au coin du feu, puisque nous sommes dans un printemps affirmé, mais on va le faire très spontanément, et puis au fil de nos idées et de nos réactions, on va voir ce que ça donne. Alors Christelle, vous avez fait des études de géographe,
tout à fait,
d'urbanisme, et exactement, vous avez commencé votre vie professionnelle à l'ORI, l'Observatoire Régional de l'Immobilier d'Entreprise, bien connu de nos professions, et puis vous avez rejoint CBRE France, où pendant 10 ans, vous avez été en charge du pôle marché de l'investissement. C'est correct ?
C'est tout à fait ça. Ben déjà, bonjour à tous. Hein. Bonjour Bernard de m'accueillir.
C'est un plaisir. Évidemment, le sujet de point de départ, c'est qu'est-ce qui change dans la location, dans l'investissement. La secousse sur les bureaux liée aux événements sanitaires est évidemment considérable. Quel est votre regard sur ce sujet ?
Sur le marché de l'investissement, alors c'est vrai que marché qui quand même, je pense, est moins secoué, hein, très clairement, que les marchés locatifs. Hein. On a eu l'occasion d'échanger justement un peu en préparation de cette interview pour en discuter. Très clairement, quand même, l'investissement maintenant est porté sur un trend long terme, on va dire, pour faire simple, de surépargne à un niveau mondial qui est très fort, hein, et qui est tendu par des logiques démographiques, des logiques aussi de liquidité, d'excédent de liquidité dans des marchés émergents. Donc ça ne bouge pas. On a aussi bien entendu la politique monétaire qui reste toujours extrêmement accommodante et qui fait que voilà, structurellement, l'actif immobilier reste toujours aussi attractif. Donc le marché va être moins bousculé que sans doute sur le locatif. En revanche, c'est vrai qu'on sent bien quand même que le scope des investisseurs est en train de bouger, hein. En fait, il y avait quand même une particularité française. La France a toujours été très focalisée sur l'immobilier de bureau, l'immobilier tertiaire, avec une diversification de marché d'investissement beaucoup plus faible que ce qu'on connaît notamment dans les autres pays européens avec une maturité comparable. Donc, la tendance était déjà quand même à un rééquilibrage. Il est clair que la période actuelle et les questionnements qui se posent notamment sur le marché des bureaux et le marché des commerces incitent très fortement les investisseurs à élargir leur horizon et à aller regarder ailleurs. Après, il y a une vraie problématique aussi qui est la maturité de l'offre, hein, du marché qu'il y a derrière, la liquidité qui y va avec. Il y a un souhait, à mon avis, assez fort de revenir sur le résidentiel. On a parlé de ce mouvement de balancier des investissements, des institutionnels, du résidentiel qui est en train de revenir. Mais après, il faut qu'il y ait de l'offre derrière et ça, c'est... Il y a des vraies problématiques là-dessus. Il y a bien entendu toute l'alternative, tout l'immobilier opéré. Donc, ça s'ouvre, mais ça va s'ouvrir quand même lentement et progressivement. Et puis, l'appétence quand même pour le corps en ce moment est très forte. Hein. On est quand même dans des logiques de sécurisation extrêmement fortes. Et donc, la valorisation quand même de l'immobilier tertiaire va rester très bonne, hein, pour tout ce qui est produit parisien, loué, sécurisé. Donc voilà, les évolutions, il y a quand même, je pense... Comme dans plein de domaines, hein, le Covid va accélérer des tendances, mais qui étaient déjà sous-jacentes, je pense, vraiment.
Et donc, si je vous entends bien, creuser encore plus vite l'écart entre les très bons produits en placement, etc., et puis les choses moyennes, médiocres et mauvaises.
Clairement, c'est le problème des périodes d'euphorie de marché, comme on a connu ces dernières années. L'euphorie conduit à un assouplissement de la lecture du risque. Bon, quand on a de l'argent à placer, que la compétition est extrêmement rude, on devient moins regardant, hein, sur les critères de risque lorsqu'on doit acheter un actif. Là, très clairement, la période actuelle incite vraiment à nouveau à la prudence. Les taux sont toujours très, très agressifs pour les très bons produits corps. Là-dessus, au contraire, hein, ça baisse encore. En revanche, c'est vrai qu'on retrouve, et c'est plutôt sain d'ailleurs pour un marché, on retrouve une vraie échelle des rendements qui reflète en effet l'échelle des risques, qui s'est quand même fortement accentuée dernièrement.
J'entendais ce matin Patrick Arcuis qui disait au fond, la finance verte, on nous parle beaucoup de la finance verte, bon, c'est un sujet, bien sûr, d'accord, mais la vraie question du jour, c'est la finance de transition. Alors, bien sûr, il ne parlait pas d'immobilier particulièrement, et je pense plutôt aux grands utilisateurs en disant ça. On peut pas se dire, dans la vraie vie, on peut pas se dire, on n'investit plus dans le pétrole, on n'investit plus dans les énergies fossiles, etc., à partir de demain matin. C'est pas vrai. Bon. Donc, la question, c'est comment on finance et comment on aide à cette transition-là. Est-ce que c'est un sujet que vous constatez chez les grands utilisateurs, par exemple? Et est-ce que ça a des incidences? Alors là, je suis plutôt dans la location, sur les choix de bureaux.
Sur les choix de bureaux, c'est vrai que, alors, là, je dirais, il y a quand même deux marchés un peu différents. Il y a quand même, d'un côté, les logiques de grands groupes qui, eux, sont vraiment en phase de maturation, voire de finalisation de leur réflexion RSE et donc de première mise en application, parce que tous les grands groupes ont des obligations à ce niveau-là et donc ça commence à se refléter, en effet, par des engagements concrets. En revanche, je dirais, quand on est dans le marché de la petite surface, plus des PME, PMI, là, on n'est pas tout à fait dans la même logique. Je pense que tout le monde est confronté à cette espèce de dilemme ou de contradiction de la période actuelle, qui est qu'en effet, tendanciellement, structurellement, je crois que tous les décideurs économiques voient bien qu'il faut aller vers ces mutations, mais qu'aussi les entreprises actuellement font face à des problématiques de cash, de trésorerie, d'incertitude économique extrêmement forte. Et nous, ce qu'on voit aussi très clairement, c'est la remontée dans les préoccupations des grands utilisateurs, bien entendu, des problématiques d'efficacité économique, hein, de la chasse au coût est réouverte. C'est vrai que cette période de prospérité relative qu'on avait connue ces dernières années avait un peu relâché la tendance. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup de bien-être au travail, c'est pour ça qu'on parlait à nouveau qualité des aménagements des locaux. C'est des problématiques de croissance, ça. C'est vrai que quand les entreprises sont en croissance, elles ont les moyens d'avoir ces réflexions-là. L'incertitude économique et les difficultés réelles de nombreux secteurs font quand même qu'on a un scope qui revient sur l'économique à court terme. Non, tendanciellement, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'on va pas pouvoir continuer à faire comme avant.
Est-ce que ça veut dire que il va falloir se préoccuper davantage de l'obsolescence des bâtiments et des actifs immobiliers?
Très clairement, parce que là, c'est vrai qu'on voit par exemple les chiffres du marché locatif qui quand même, on va pas se mentir, hein, se tasse assez rudement. Là, on le voit, on en discutait. C'est vrai que moi, je suis plutôt positive sur la reprise de marché à moyen terme, parce qu'en effet, il va y avoir un vrai besoin qualitatif extrêmement fort suite à cette crise-là. On a quand même des problématiques d'obsolescence qui étaient déjà fortes sur un certain nombre de parcs. On a à la fois, on va dire, un double scope, quoi. C'est à la fois, en effet, les problématiques environnementales, l'attention aussi à la qualité des locaux et le fait de donner envie aux salariés de revenir dans les espaces de bureau notamment, va obliger à travailler cette dimension qualitative du parc extrêmement forte. Les problématiques environnementales aussi en termes d'efficacité énergétique également. Les problématiques aussi économiques vont obliger aussi à travailler l'optimisation des surfaces. Donc, pour toutes ces raisons, très clairement, il va y avoir une accélération extrêmement forte de l'obsolescence d'un certain nombre d'immeubles qui, par leur configuration, leurs caractéristiques techniques, la façon aussi dont ils sont mis à disposition, hein, par leurs propriétaires, vont être obsolètes. Parce que au-delà des caractéristiques techniques et structurelles, il y a aussi la façon dont on propose le produit immobilier. Et ça, je pense que
c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire en disant la façon dont on propose?
Alors, par exemple, il y a une thématique qu'on développe chez CBRE qui est celle de l'hôtellification de l'immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, demain, le produit immobilier va moins être un produit de murs nus, mais plus un ensemble à la fois de prestations, de services, et aussi de prise en compte un certain nombre de besoins de flexibilité que les investisseurs vont devoir faire. On parle beaucoup du coworking et cette émergence du coworking et ce succès qu'a connu le coworking. En fait, ça vient pas de nulle part. Ça vient du fait que c'est vrai que l'immobilier ces dernières années n'est pas beaucoup évolué dans sa façon de proposer ses produits aux utilisateurs. Hein, très clairement, on continue à mettre à disposition des plateaux nus avec des engagements de plus en plus longs. Alors même que les cycles économiques, les cycles d'innovation se raccourcissent Donc, on voit bien comment c'est difficile pour les entreprises de s'engager sur des durées très longues alors que leur visibilité économique se réduit. On voit le besoin d'effet de service, d'accompagnement et donc de facilitation. Très clairement, on dit que les entreprises, leur business model, en effet, leur cœur de business model, c'est pas l'immobilier, mais ça veut dire que du coup, faut les aider aussi à vivre et à utiliser cet immobilier au plus simple et au mieux. Et toutes ces raisons font que, en fait, les besoins des utilisateurs ont beaucoup évolué et que l'immobilier, par contre, n'avait pas vraiment répondu. En tout cas, les acteurs traditionnels n'avaient pas vraiment répondu et continuent à proposer des plateaux de bureaux comme actuellement, comme on les proposait il y a 20 ans plus ou moins. Et c'est vrai que la crise actuelle, bah, je pense, a amené une révision profonde de ce qu'il faut faire.
Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, parce que le temps passe très très vite en vous écoutant, je voudrais qu'on évoque précisément l'avenir et la prospective. Et vous, à l'heure où nous enregistrons cette émission, vous avez lancé il y a quelques jours une idée et une pratique d'ailleurs que vous avez appelée les défricheurs et qui consiste à interviewer sous forme de podcast des personnalités qui pensent, qui réfléchissent et qui, j'ai envie de dire, des personnalités éclairées, qui réfléchissent à l'avenir. Alors, je suis particulièrement sensible à ça parce que à l'IEIF et avec Radio Immo d'ailleurs, nous avons depuis un an mis en place une formation par podcast un peu sur ces thèmes, sur ces axes de qu'est-ce qui change, quelles sont les grandes tendances lourdes, etc. Donc, je pense que on a des bonnes idées, mais je voudrais que vous nous disiez un peu qu'est-ce qui conduit ces BRE à, au fond, investir de l'énergie, du temps, de la réflexion, etc., sur ce sujet?
Bah écoutez, qu'est-ce qui nous conduit à ce sujet? Bah, d'abord, c'est une vraie démarche monde, hein, c'est-à-dire que les défricheurs, cette série de podcasts, c'est une initiative France, mais globalement, il y a une vraie volonté au niveau groupe de réorienter notre research vers des réflexions plus prospectives. Il y avait d'ailleurs une grande initiative qu'on avait lancée l'année dernière qui s'appelait Real Estate 2030. Et la déclinaison pour le marché français, c'est cette étude qui s'appelle Le Nouvel Écosystème Immobilier, où on essayait de tracer quelques voies, quelques grandes voies sur un avenir possible pour l'immobilier autour de trois thématiques: comment on travaille, comment on vit, comment on consomme et comment on investit. Donc voilà, il y avait déjà cette idée-là. Et donc, la série de podcasts et des fricheurs s'inscrit dans la droite ligne de cette volonté de se tourner vers le futur, vers les horizons. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre groupe mute, son business model mute. Nous étions une entreprise traditionnellement de brokerage. On est en train de se repositionner très clairement sur du conseil à valeur ajoutée et de l'accompagnement, aussi bien des investisseurs dans leur stratégie d'arbitrage, d'investissement, que les utilisateurs dans leur politique immobilière. Et ça veut dire qu'en effet, à partir du moment où on passe de l'intermédiation au conseil, il faut être au plus près de nos clients. Et nous, ce qu'on ressent très fortement dans justement un peu de brouillard, c'est le besoin justement de réussir à cerner quelques grandes tendances, quelques signaux faibles qui permettent d'anticiper. Voilà. L'idée, c'est d'aider nos clients à anticiper et à donc construire leur stratégie d'une façon intelligente en l'accompagnant. Alors, pas forcément d'ailleurs en donnant les réponses, hein. Je crois qu'un accompagnement, c'est aussi souvent poser les bonnes questions, aider les clients à se poser les bonnes questions pour demain qu'ils puissent mettre en œuvre les solutions qui seront le plus adaptées à leurs problématiques. Et c'est pour ça que maintenant, on se tourne vraiment sur des problématiques plus de prospective, également sur un positionnement plus moins strictement immobilier, plus urbain, parce qu'en effet, un actif immobilier, une grande partie de sa valeur, de son utilité, se construit aussi dans le contexte urbain et un rôle. Donc, on essaye vraiment d'élargir en effet notre scope et d'être là sur des logiques qui sont plus la production des territoires, l'aménagement, et puis on travaille avec en effet une variété maintenant de clients qui sont plus importantes. On travaille avec des collectivités territoriales, des aménageurs, et sur en plus des typologies d'actifs de plus en plus variées. Donc voilà, on ne peut plus seulement se contenter de parler de marché et dire est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre dans 6 mois. Nos clients attendent autre chose de nous, un peu plus d'intelligence, un peu plus de vision et un vrai accompagnement.
Cette ouverture des actifs un peu plus différenciés, ça vise quel secteur par exemple, quel nouveau secteur par exemple?
Alors, très clairement, bon, on en a parlé au tout début, le retour du résidentiel vraiment en force.
Résidentiel.
En fait, je pense que l'investisseur se rappelle utilement à quel point l'immobilier résidentiel est un produit quand même extrêmement sécure. On parle beaucoup des problèmes les difficultés de gestion du résidentiel. Quand on va aller vers l'immobilier opéré, on va se rendre compte que peut-être gérer des locataires individuels, c'est pas si compliqué que ça. Alors, en tout cas, voilà, il y a une vraie résilience et puis aussi un besoin, un déficit d'offres tellement énorme en France que je crois que le marché est sous-tendu par des dynamiques démographiques réelles, ça n'est pas de souci.
On paye son loyer avant de payer ses impôts, dit Pierre Schoeffler.
Très clairement, c'est le premier besoin, enfin c'est le premier besoin vital, hein, c'est le premier besoin fondamental, se loger, et donc en effet. Très clairement, c'est la dernière ligne. C'est-à-dire, on peut réduire tout, mais par contre, on continue à payer son loyer parce qu'on souhaite avoir un toit sur la tête. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Il y a toute la problématique autour de tout ce qui va être la nouvelle économie du care, de façon générale. Donc, on parlait des tout ce qui est actif de santé. On voit bien à quel point notre appareil de santé, notre appareil de soins, notre appareil d'accompagnement aux différents âges de la vie. Est sans doute inadapté à l'immensité des besoins à venir. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai axe. Il y a aussi toute la redécouverte de l'utilité de la logistique au sens large, de la nécessité qu'une économie soit approvisionnée de façon efficace pour pouvoir fonctionner. Et donc, la revalorisation de la logistique qu'on voit, je pense, est vraiment concomitante à cette prise de conscience. Donc, il y a quand même pas mal d'actifs. Et puis, oui, on en a parlé tout à l'heure aussi, l'immobilier opéré de façon générale, c'est-à-dire cette façon de fournir des locaux de bureaux ou autres, mais avec une dimension de flexibilité et de service, et de facilitation en tout cas, qui répond aux besoins des entreprises, besoin aussi des télétravailleurs qui peut-être auront demain envie de sortir de leur salon pour aller dans un espace de coworking à proximité de chez eux. Donc, il y a vraiment toutes ces nouvelles, tous ces nouveaux horizons qui s'ouvrent et donc des investisseurs qui commencent à un peu regarder autre chose que le bureau. Parce que pendant longtemps, enfin, moi, en tout cas, à l'époque, quand je travaillais sur le marché de l'investissement, je me souviens que le bureau, c'était 75% des montants investis en France. C'est énorme et ça répond pas. C'est vrai que l'économie française est très tertiaire. Mais elle aurait été beaucoup plus diverse que le focus immobilier qu'on en fait, que la lecture immobilière qu'on en fait.
Eh bien, c'est sur cette conclusion que, à mon grand gré, nous devons nous quitter. Merci infiniment et j'espère que nous aurons l'occasion de reprendre ces conversations parce que ce sont des sujets formidables. Merci beaucoup, Christelle.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.